France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le 23 septembre 1985, Marcel Pichon, ancienne mannequin de 63 ans, décide d'arrêter de manger. Pas pour un repas, pas pour une journée, mais bien pour toujours. Elle se laisse mourir lentement, observant la destruction progressive et programmée de son corps, qu'elle consigne dans un journal intime qu'elle laisse pour la postérité. Nulle altération de sa lucidité, nul regret semble intervenir dans ces 45 jours d'agonie qui feront la une de la presse 10 mois plus tard, à la découverte de son corps. 10 mois plus tard, voilà qui peut paraître long, et pour cause. Marcel Pichon était absolument seul, et c'est cette solitude même qui l'a poussé à se tuer. Sordide expression d'une réalité universelle, qui frappe en particulier les personnes âgées. Marcel Pichon symbolise également l'indexation de la valeur des femmes sur leur beauté supposée. Si elle a connu une belle carrière de mannequin, l'âge lui a ôté le regard des autres et le privilège d'exister dans une société qui invisibilise les femmes au-dessus d'un certain âge. C'est sur le récit de ce fait divers glaçant que s'ouvre ce numéro de Nuit magnétique d'Olivier Képlin, réalisé par Bruno Sourcy. Mais, semblerait-il, la solitude n'est pas une fatalité. On passe de la solitude qui brise à la solitude brisée, car c'est à la Boule Rouge, rue de Lappe, que se déroule la deuxième partie de cette émission. Le changement d'ambiance est total. Esprit festif, danse, retrouvailles entre amis de tous les âges, voilà le programme d'un lieu de sociabilité qui défait la solitude des êtres, dans un bal musette qui continue jusqu'aux petites heures du matin. Une émission diffusée pour la première fois le 10 juin 1987 sur France Culture.
Il y a des gens qui sont seuls parce qu'ils sont incapables de communiquer, qui sont dans un milieu familial ou social bien organisé, bien structuré. Et il y a ceux qui sont seuls parce qu'ils n'ont personne à côté d'eux, qui sont, pour une raison ou une autre, que ce soit des veuves, des divorcés, des immigrants travailleurs, des provinciaux qui sont arrivés à Paris et qui vivent seuls, et qui n'ont pas d'amis, et qui n'ont pas de relations, et qui sont complètement seuls. Il y a des gens qui nous appellent pendant le week-end parce qu'il n'y a même pas de bruit dans leur maison.
Nuit magnétique, quatre quartiers de solitude, aujourd'hui comme une danse, par Olivier Képlin et Bruno Sourcy.
Cette femme avait mis un point d'honneur à toujours paraître bien coiffée, bien habillée, une façade lisse comme ça, une façade parfaite, ce qui laisse toujours à penser que les façades trop lisses se cachent des troubles ou des désarrois profonds.
Il arrive que le monde vous laisse tomber. Il arrive que le monde vous blesse, vous fasse horreur. Certains décident alors de se retrancher. D'autres, au contraire, se collettent avec les heures, les gens, les bruits, plongent dans le mouvement autant qu'ils peuvent plonger. Dans la ville, l'âge est cruel car il est souvent synonyme d'indifférence et d'abandon. Ainsi, nous apercevons tous les jours des silhouettes de femmes qui glissent un mot ou deux chez les commerçants, puis vont leur chemin ou semblent chercher conversation sans que nous sachions quoi leur dire, si ce n'est deux ou trois phrases échangées, puis silence. Ce soir, c'est à leur rencontre que nous irons, à travers un quartier où se mêlera la danse, Dieu, la solitude et le chagrin renié. Ainsi qu'à travers un fait divers qui occupa, voilà 2 ans, la une des journaux. Le suicide de Marcel P., 64 ans, ancienne mannequin de chez Jacques Fatt, qui, abandonné, fatigué, avait choisi de se laisser mourir de faim dans son 2 pièces de la rue Championnet, dans le 18e arrondissement, où elle fut retrouvée 10 mois plus tard. Pour Marcel P., le monde devint peu à peu silencieux, au point que même la solitude choisie ne fut plus d'aucun secours. Elle ne parla pas, elle ne dit presque rien. Elle nous laissa sa mort et quelques mots d'un journal. Alain Arnaud lui a consacré un livre.
C'était un ancien mannequin de haute couture qui avait connu une période de gloire dans ce qu'on appelle les années 50, qui s'est ensuite retrouvé dans une solitude plus ou moins voulue, plus ou moins subie, et qui un beau jour a décidé donc de se laisser mourir de faim par le jeûne. Le plus extraordinaire dans ce geste étant le fait qu'elle ait tenu un journal de son agonie, et un journal qui a été pour moi le point de départ d'une fascination par l'horreur, parce que ce journal ne donne pas du tout des plaintes, des reproches, des regrets, ni même des souvenirs de sa vie antérieure. Il est le journal clinique, vraiment clinique, de son agonie physique. Moins tant de kilos, les urines rouges sang, la langue comme un escargot, etc. Quelque chose qui est de l'ordre de l'horreur, c'est-à-dire vraiment impensable pour la pensée. C'est l'intolérable pour la pensée, et c'est ce qui a été le point de départ de mon écriture. En fait, du fait que j'ai eu envie d'écrire sur ce geste et sur ce qui l'avait précédé, d'écrire pour exorciser, je pense, pour exorciser.
Marcel P., extrait numéro 1. J'ai de graves difficultés financières. Je suis las de la vie. Fin du mois de septembre 1984. Mardi 9 octobre 84. 17 jours de jeûne, un demi-litre d'eau par jour, la toilette assise devient pénible. Le cœur s'épuise, mais quelle résistance ! 45 kilos.
Était assez touchant, presque les mots d'une enfant. Vous avez noté une phrase où elle parle de sa solitude en disant « C'est terrible de ne plus entendre dire le soir quand on rentre « Bonsoir chérie ». C'était très enfantin, non ?
Oui, c'était surtout très, très banal, très ordinaire. Je crois d'ailleurs que tout le drame de cette femme, de ce que j'en ai perçu, c'est ce contraste entre une vie, somme toute, très ordinaire, une femme qui vieillit, une femme qui a divorcé, une femme dont les enfants sont un peu lointains, dans quelque chose de banal, la vie ordinaire, la vie quotidienne, le contraste entre cet ordinaire et puis ce geste qui rejoint les gestes du plus haut tragique, c'est-à-dire aller au contraire même de sa genèse, accomplir une genèse à l'envers, en revenir à l'état de néant, c'est-à-dire finalement nier sa propre matière, nier son propre corps. Ça, c'est l'intolérable pour la pensée. On peut tolérer une autre forme de suicide, le suicide brutal, mais cette espèce de mouvement à rebours vers le néant, vers l'origine, ça confronte au problème de la matière, dans ce qu'elle a de plus intolérable pour la pensée. C'est une des grandes traditions de la philosophie grecque. C'est aussi quelque chose d'intolérable dans l'ordre du christianisme. C'était non pas une négation de l'incarnation, mais une espèce d'incarnation à rebours. Elle s'est absentée, en fait. Elle s'est mise entre parenthèses, elle a fermé sa porte, et à partir de là, il ne s'est plus rien passé. Elle ne s'est plus alimentée, peu à peu, elle ne s'est plus levée, elle ne s'est plus lavée non plus. Elle s'est absentée, c'est-à-dire qu'elle s'est, en somme, retirée de la présence.
Marcel P., extrait numéro 2. Samedi 13 octobre, M, 6 kilos, P, 80 M. Vendredi 19, 27 jours. Mercredi 24, 32 jours, crise de foie, bile, 40 kilos, épouvantable. Le cœur tient toujours, que la malédiction soit sur ce monde pourri. Pour un bol de bouillon, une tranche de pastèque, un citron, on vendrait son âme.
La solitude, d'abord, il faudra en parler au pluriel, parce que il y a celle qu'on choisit. Il y a celle qu'on subit, il y a celle qu'on ne peut pas ne pas choisir à partir d'un certain seuil, et puis il y a moult façons de la vivre. Prenons la solitude du moine qui, de par sa vocation, choisit d'être seul, mais il n'est pas seul dans les faits. D'abord, il est porté par une communauté, par une règle, par des rites, par des obligations, et surtout, cette solitude est faite pour vivre avec le tout autre, avec un Dieu. Autre est la solitude de celui qui vit peu à peu dans un retrait de la mondanité, de trop nombreuses amitiés qui lui paraissent peu à peu fades, d'une culture bruissante dont il ne choisit plus que quelques éléments. Bon, ça c'est un peu la solitude du moraliste ou du sage. Et puis alors il y a la solitude de cette femme qui était très certainement un destin qu'elle a subi jusqu'au jour où elle lui est devenue nécessaire. C'était une solitude partie prenante de son quotidien, c'était sa respiration même. Et la quitter, c'eût été déchoir pour elle. Je pense qu'il y avait une marque de fierté à ne pas faire appel et à en rajouter dans la solitude. Et puis, je crois aussi que la solitude est un long apprentissage, en somme, qu'on l'ait choisie ou qu'on la subisse. À partir d'un moment, il y a un point de non-retour. Et la solitude change de nature. Elle devient quelque chose de l'ordre d'une mystique, ou pour aller moins loin, de l'ordre d'une éthique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dedans, elle vous convient, vous vous formez selon son mode et ses rythmes, Vous êtes modelé par votre solitude tout autant que vous la modelez. Et là, c'est un état permanent. Je ne dirais pas qu'il abolit le temps, parce que c'est un mythe de croire abolir le temps. Il le suspend, en tout cas. Il le suspend et il pose son propre rythme, qui est indifférent du rythme du temps extérieur.
Vous avez le sentiment que la solitude est quelque chose d'une épreuve ou plutôt d'un apaisement ?
Tour à tour les deux, et quelquefois les deux mêlés. Regardez la leçon des grands mystiques, même ceux qui ont connu les grâces les plus hautes, comme on dit dans le vocabulaire catholique, c'est-à-dire les grandes extases et les grandes unions, leur solitude est marquée de révolte, d'épreuves, de doutes, et puis brusquement d'apaisement, de pacification jusqu'à l'union. Il en va de même pour les solitudes, disons, plus ordinaires que sont celles de l'écrivain, du peintre, enfin, et celles encore plus banales lors de la vie, celles que vous impose la vie. Je pense qu'elle a dû à la fois subir cette solitude. Est-ce qu'elle l'a vu venir ? Ce n'est pas sûr. Cette solitude a dû peu à peu accompagner son vieillissement, puis devenir son état permanent jusqu'au jour où elle l'a prise à son compte, en somme. C'est ce en quoi elle a affronté son destin en disant « ce ne sera pas un destin subi, ce sera un destin que je voudrais ». Et puis cette volonté s'est quand même échouée, puisqu'il y a eu un moment où elle a dit « bon, alors, le silence absolu, la solitude absolue, je ne peux plus ». Et donc je vais jusqu'à l'ultime, je vais abolir même cet abolissement.
Dimanche 28. C'est épouvantable, l'eau n'est plus tolérable. La langue... C'est un escargot qui dégorge dans du sel. Le cœur ne cède pas. La lucidité est entière. La nuit, l'estomac se contracte. 35 jours sans manger. Je suis à bout de résistance. Le jeûne, c'est la mort, la plus horrible qui soit. Comme toujours, on ne sait jamais la vérité. Mardi 6 novembre. Je ne peux plus me lever. Les urines sont rouges champs. J'ai très mal aux reins. Marcel P. a donc laissé ses phrases où son corps se détruit, ainsi que des photos qui remplirent les journaux. On la voyait jeune, dans des vêtements de haute couture, extrêmement belle.
Je crois que la beauté est un don extrêmement pervers, dans la mesure où c'est un don qui, dès qu'il est donné, commence à se perdre. On peut très bien imaginer que les autres dons croissent avec l'âge, que ce soit la morale, la culture, l'intelligence. La beauté, dès qu'on la possède, elle commence à s'effriter. Et c'est un compte à rebours permanent. Je crois que ça, surtout qu'elle en faisait son métier en somme, ce dut lui être particulièrement cruel. N'oubliez pas que la part principale de cette femme nous est cachée. Il ne reste au fond que l'horreur de ce geste qu'on ne peut pas comprendre et devant lequel on doit se démettre en termes de raison et se soumettre en termes de passion, puisque quand même au fur et à mesure que j'ai suivi cette femme... parfois même jusqu'à la discrétion, au fur et à mesure, je me suis mis à l'aimer.
cette femme aimée, Marcel P., fut celle pour qui les journaux titrèrent « Seul jusqu'à ce que mort s'en suive » ou « Seul à en mourir ». Cette solitude, nous la retrouvons dans ce quartier du centre de Paris, très loin du 18e et de la rue Championnet. Elle est là, rue de Lappe, près de la Bastille, dans des bals et dancing, où des femmes de 50 à 80 ans, robes, boucles d'oreilles, viennent la conjurer, l'oublier, superposer des images anciennes à celles d'aujourd'hui. Et, loin de l'amour d'Eros, chercher l'amour d'Agape. Nous sommes rue de la Roquette, au croisement de la rue de Lappe, où va et vient un peuple surveillé du coin de l'œil par un policier mélancolique et fatigué.
La Bastille vit un peu sur son passé, mais la rue de Lappe et autres, c'est fini. Hein. Balageau, tout ça, vit sur son passé, hein, sur la légende. Pour le Parisien, vous savez, le Balageau ne représente plus rien.
Mais la boule rouge en face, c'est, ça c'est plus...
Oui, c'est un petit peu... Ça s'est encanaillé, bien sûr. Peut-être plus que le Balageau encore. Mais. Enfin, ce n'est plus... ce n'est plus comme avant.
Quinze ou vingt pas entre trottoir et chaussée dans le boyau de la rue de Lappe et sur la droite, l'entrée de la boule rouge Dancing. On aperçoit curieusement, dans la pénombre, le chapeau rond d'une soldat de l'armée du salut.
Cette ligne dans l'Ancien Testament qui nous conduit à Jésus-Christ. Eh bien, Dieu nous a aidés. Et il nous a montré la force de son amour en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ.
Et à ce moment-là, pourquoi il y a toutes ces souffrances dans le monde, les souffrances, tout ce qui existe, du mal.
C'est sûr,
pourquoi
c'est
ça sûr qu'il y a c'est vraiment, il a tous les pouvoirs.
On ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas l'expliquer. Jésus a souffert pour nous.
Vraiment, c'est ça que je dis. Si y a, comme vous dites, Dieu a tout le pouvoir dans le monde. Pourquoi il y a tant de souffrance?
Mais oui, je comprends. Ça a toujours été le grand critère, ça. Ça a toujours été le grand problème. Pourquoi? Mais ce qui m'aide dans le combat quotidien, c'est de savoir que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, sur la croix, a posé un pourquoi à son Père. Parce que lui, en tant que Fils de Dieu, lorsqu'il est mort, juste avant de mourir, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a cru à l'abandon de Dieu, tellement il souffrait. C'était normal. Donc il a épousé parfaitement notre humanité. Et le fait qu'il ait posé ce pourquoi m'aide à vivre mon combat quotidien.
Moi, je vous dis franchement, je suis athée. J'étais né au Portugal, à Fatima. Je veux plein de trucs là-bas. De la religion catholique, je suis athée. Je ne peux pas croire, je suis athée,
bien, monsieur,
c'est vraiment.
J'espère pour vous et je prierai pour vous.
Donc, je suis pas contre, mais je suis athée, excusez-moi.
Je vous laisse le journal, prenez-le, au revoir, Dieu vous bénisse.
Rue de Lappe, en plein centre de Paris, la scène semble sortir d'un roman irlandais ou du sud des États-Unis. L'armée du salut tente de convertir les danseurs de Java. À quelques pas de là, au fond de la salle du bal de la boule rouge, une vieille dame, danseuse de 81 ans, attend qu'on vienne l'inviter pour quelques tours de valse.
Et la boule rouge, qu'est-ce que vous aimez dans la boule rouge?
Tous les danses.
Vous dansez encore?
Il y a encore quelques copains que je connais, là.
Oui. Et vous avez dansé ce soir?
Oui.
Quelle danse, polka?
La valse
et
le slow.
La valse et le slow. Et vous avez encore des amis ici? Il y en a quelques-uns?
Et là-bas, au bout, il y a des années qui sont là. La blonde en face, là, il y a des années qu'elle vient là.
Et vous les voyez en dehors de la boule rouge? Je veux dire, non, c'est juste là que vous les rencontrez.
En sortant d'ici, je connais plus personne.
Et vous en avez besoin de cette ambiance?
Distraction.
C'est une distraction. Et par exemple, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe le samedi? Le samedi, vous décidez à quelle heure de descendre ici?
Ben, ça commence à 9h. À 9h moins 10, on ouvre la porte. Hein. C'est jusqu'à 5h. Et moi, je ne reste pas jusqu'à 5h.
Vous restez jusqu'à quelle heure?
1h.
Et comment vous remontez Place Clichy?
Taxi.
Et alors, là par exemple, s'il y a un tango, une polka, vous allez aller la danser?
Si on vient me chercher, oui.
Si on vient vous inviter. Là, on voit des gens qui dansent sur la piste, mais tous les gens qui sont au bar, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent pas, eux, c'est? Ça leur arrive?
Derrière là, la blonde avec son mari là. Ça fait longtemps qu'ils viennent là tous les samedis.
Ah oui? Et là pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être seuls. Il y a des gens en groupe, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont l'air d'être seuls.
Oh ben, il y a des hommes qui sont seuls, il y a des femmes qui sont seules. Il y a beaucoup de femmes seules qui viennent là.
Et ça leur arrive de rencontrer quelqu'un?
Ça ne m'intéresse pas à ça. Ça n'occupe pas les autres.
Mais finalement, alors les gens ici ne se parlent plus, en fait. C'est ça que vous reprochez. C'est que c'est plus...
C'est plus comme avant.
Madame Rosie, professeure de danse, ancienne championne de danse latino-américaine avec Georges. Rosie, du couple Georges et Rosie.
Moi, je trouve que c'est très beau ce qu'ils font. C'est des bons spécialistes. Parce qu'il faut vraiment savoir bien valser, bien faire les toupies. Ils font de ces toupies formidables. On peut même danser sur une table. Il faut tourner comme ça, mais il faut être spécialiste de ça. Mais actuellement, par exemple, en compétition, nous demandons aux couples de danser les toupies. Mais ça ne s'appelle plus les toupies, ça s'appelle le flicker. Et ce flicker, on commence par tourner vers la gauche. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. À gauche, tchac, on fait un check. Check, ça veut dire un stop, arrête. Et hop, you turn, vous tournez à droite. Alors, c'est ce qu'on appelle le flicker. Et là, dans la valse jambard, c'est les pieds, les toupies. Ils font aussi du petit tango, mais du petit tango, comment on appelle ça, javalisé, comme la java, quoi. Un petit peu, avec des petits mouvements, mais c'est pas du tout le vrai tango, quoi.
Et le balajo, comment c'était?
Dans le temps-là, c'était un endroit de touristes. Nous-mêmes, on allait souvent, on avait beaucoup d'amis étrangers qui venaient. Alors, on prenait les voitures et hop, on allait là-bas. Et après, on allait souper. Et bien, là-bas, c'est... On nous voyait vraiment des vrais... On appelait ça des mecs, je crois, à cette époque-là. Je ne sais pas comment on les appelle maintenant. Il y avait un autre nom, mais je ne peux pas vous dire ça. Secret professionnel. Ça ne serait pas gentil de ma part. Eh bien, il y avait des danseurs magnifiques qui dansaient vraiment. Je vous dis, c'est leur style, hein, mais ils demandaient leur de danser un vrai tango, un joli tango pour compétition, ils ne savent pas.
Et la java, c'est quoi?
Ben, c'est une valse aussi, mais avec des petits pas en arrière, avec un petit balancé, avec des dragues, tout danse. C'est très joli quand c'est bien fait. D'ailleurs, je crois tout ce qui est danse, c'est beau. Nous allions danser tout le temps. Là, vous voyez, je vous dis, tous les dancings, je les connaissais par cœur à cette époque-là. Parce que nous allions danser. Et surtout, ce qui nous attirait dans tous ces beaux dancings, par exemple, surtout aux Champs-Élysées, au Claridge, au Langer, à cette époque-là, il y avait des dîners dansants, il y avait des attractions. Et c'est les gens, c'est les directeurs de ces maisons-là faisaient venir des attractions, mais des couples de danseurs américains. Avec des portées, avec des acrobaties, avec des grands écarts. Mais joli et chic, et les danseurs, le couple dansait, lui en habit, et elle en robe du soir. Mais des robes de soir splendides, beaux. Alors nous, c'était ça. Parce que notre métier, c'est comme ça qu'on a pu se lancer, nous, Georges et moi. Ça nous a plu, ces couples. Tu vois? Eh bien... C'était quelque chose d'attractif et en même temps, c'était pour apprendre, pour voir ces merveilles qu'on voyait. Quand la femme levait ses bras en l'air comme ça, ses positions de ses mains, sa tête, et le jeu qu'ils avaient quand ils dansaient. Parce qu'on a vu après, moi j'en vois des danseurs dans des compétitions, ils dansent, c'était des machines. Mais la danse, c'est pas la machine. La danse, il y a l'expression du... Il y a l'amour-amour qu'on appelle dans la danse. C'est ça, la danse.
Vous avez été champion
Oui, en 1931. Le flash, pour nous, ça a été les Latin American Dance. Parce que j'avais, paraît-il, bon, parlé il y a quelques années aussi, hein, le rythme dans la peau, quoi. Alors, et Georges aussi. Mais Georges, dans les Latin Dance américaines, il faut que le danseur soit très sobre et très chic, qu'il n'y gigote pas, qu'il ne fasse pas le geste, les moves de la femme, hein, les mouvements de la femme. Mais c'est la femme qui doit jouer. Et je crois que c'est ça qui a plu aussi beaucoup. Parce que souvent, j'entendais... À ce moment-là, ça existait autour du Coliseum en haut, ça s'appelait le cœur des croyants. En haut, il est crié. Je devais être des fois figé aussi, crié. On réclame le sourire du 45, on réclame le 45. Alors je faisais sourier, alors je souriais, je dansais, après je reprenais.
Et quel type de mouvement alors doit faire la femme dans ses danses?
Ensorceler son danseur, hein. Faire le serpent. Ah oui, c'est charming qu'on appelle ça. L'expression du visage. Si tu fais une figure, si tu fais n'importe quoi, une jolie figure, comme ça, la tête avec un rideau, comme ça, tu danses, ça donne rien du tout. Si tu le sens et si tu fais un drag, un tiré comme ça, tu fais l'expression du visage qui va avec, tu regardes du côté de ton danseur, tu le regardes pas comme ça, de grands yeux ouverts, tu le regardes avec une expression de charme, je sais pas. Et c'est ça. Ça, c'est la force.
Ha, ha, ha. bonne ambiance,
comment
voilà.
Ah ben, une sympathie client, musicien, clientèle, patron, direction, personnel bien, aussi, bien. Voilà, et bien. Voilà un autre ami à moi.
Que... Est-ce que le samedi c'est pareil que la semaine?
Très bien. En semaine, non. En semaine, on danse pas, monsieur, en semaine. Ça commence samedi après-midi, samedi soir, dimanche soir, lundi après-midi, c'est tout après. Hein.
Le lundi après-midi, vous jouez aussi?
Lundi après-midi, oui.
Et alors, c'est comment le lundi après-midi? C'est pas la même clientèle?
Oui, c'est. Oh, le lundi, c'est une. Oui, on va. C'est-à-dire que le lundi, il y a peut-être plus de commerçants, parce que les commerçants ferment le lundi en principe. Alors, c'est plutôt des commerçants qui viennent danser. Femmes de commerçants et commerçants eux-mêmes qui viennent danser, voilà, c'est surtout
ça. Et vous, vous êtes saxophone, alors qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre histoire de musicien?
Oh là là.
C'est le meilleur. Voilà, c'est pendant.
Ah, ils vont me mettre mal à l'aise. Hein.
Vous jouez quoi comme morceau?
Oh bah, vous entendez un petit peu de tout, quoi. Ouais. Il faut faire un peu de tout pour plaire à tout le monde, quoi.
Et vous jouiez du jazz?
Dans le temps. J'ai fait de la musique pop. Ouais. Mais enfin... Petit à petit, je me suis habitué ici, je me plais. Mais enfin, il y a une très bonne ambiance.
Non, une ambiance.
Très bonne qualité,
c'est vrai,
voilà,
c'est
ça.
On retrouve les amis, on retrouve les copains, c'est vrai. On vient ici pour une ambiance, pour retrouver les copains et les amis.
Et pourquoi plutôt ici que le Balajo, par exemple?
Ben, je trouve que c'est plus sympathique ici.
C'est-à-dire?
Ben, on retrouve les amis, les copains, que là-bas, c'est plus fier.
Plus fier?
Ah oui, c'est plus fier.
Plus frime?
Je sais pas, enfin, vous voyez, moi j'ai 51 ans et je ne suis jamais sortie avant. Ici, je retrouve des copains et des copines. Mais des copains, des copines.
Des copains, des copines que vous êtes faites ici?
Oui, qu'on s'est fait ici. Et on se retrouve tout le temps, et vraiment des amis, hein. Vraiment des amis, hein. Vous savez, moi je suis une mère de 5 enfants et je ne suis jamais sortie avant. Et je reconnais qu'ici, à la boule, on retrouve des copains. Des copains, des copines. Hein, c'est vrai, hein, c'est vrai pour les copains et copines ici. L'Armée
du Salut. Qu'est-ce que c'est que ce journal,
L'Armée du Salut?
Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Ah, attention monsieur, la voiture voudrait peut-être passer. Il y a des tas de choses intéressantes.
À quel sujet?
Au sujet de la foi, au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet de...
Et pourquoi vous vendez ça à la Boule Rouge, rue de Lappe?
Et pourquoi on ne le vendrait pas rue de Lappe? On peut le vendre partout. Moi, j'ai vendu Champs-Élysées, je le vends rue de Lappe, je le vends n'importe où.
Et vous en vendez beaucoup, rue de Lappe?
Bon, j'ai peur.
Peu importe le nombre. Ce qui était essentiel, c'est que les gens posent surtout beaucoup de questions et on répond et le dialogue s'instaure. Et...
Vous trouvez beaucoup de gens qui discutent de la foi de Dieu ici, rue de Lappe?
Oui, mais justement, qui la mettent en cause. C'est d'autant plus intéressant. Regardez, écoutez le monsieur, écoutez la dame.
Ah, mais je crois qu'au fil du temps, on vient là. Enfin, pas tous ceux qui sont ici, hein, mais certains. On se retrouve entre copains, copines. On s'est connus ici, on revient. Ils ont lieu d'aller dans un bal où on va être anonyme. Bon, c'est pas l'histoire, un gars il va dans un bal, bon, il peut toujours inviter. Mais inversement, il y a une chose, c'est qu'on se connaît pas mal de copines, de copains, on se retrouve ensemble, et disons que ça fait une certaine ambiance entre nous.
C'est vrai.
C'est ce qui compte, je crois, c'est l'histoire de se retrouver à la fin de la semaine. On a fait, on est tous pareils, hein, on a fait 5 semaines. Bon, il arrive le samedi soir, on se retrouve, on se connaît pas tous, mais beaucoup on se connaît, des femmes, des hommes, bon là, et on est copains ensemble. Et ça fait une certaine ambiance. Et c'est, je crois que c'est ce qui compte. On a besoin dans la vie. Hein.
Non, moi je disais que j'ai des ennuis familiaux, moi, c'est vrai. Un fils qui se drogue et tout. Et je viens ici pour me détendre. Parce que, croyez-moi, des dépressions nerveuses, j'en ai. Hein. Mais pour me détendre, je viens ici. Et c'est vrai.
Et vous dansez surtout quoi? Vous dansez surtout quelle danse?
Tout, en principe tout, en principe tout.
Il faut des musettes. Ah, la valse, le tango, le passodoble, c'est formidable. Puis ici, on est en famille. On est habitués ici.
C'était que les ouvriers, c'était le musette. Il n'y avait que ça qu'ils pouvaient faire, hein, de sortir, aller danser. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont plus d'argent. On sort plus pour aller danser. De toute façon, les bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a 2-3 qui existent encore.
On sortit du Balajo, de la Boule Rouge, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Le petit jardin, c'est prétentieux.
Pour venir dans le temps. Le vrai temps qu'il y avait pour les vieux. C'est l'ambiance. Parce que les vieux, je les adore.
Merci pour les vieux.
Et quand ils viennent dans un bal, c'est musette, ils dansent. Tandis que maintenant, s'ils vont dans un bal moderne, ils font banquette.
Roger. Il y a la danse du tapis vers 2h du matin, là, de 1h30 à 1h30 à 2h30. Ouais. Mais c'est formidable, on s'embrasse tous les uns les autres. Et puis, on se connaît pas, c'est pareil. Mais c'est formidable ici. Moi, je dis que.
On vient 3 quarts du temps. Je viens même pas pour danser, je viens pour retrouver les amis.
Et combien de temps je viens ici?
Vous savez, j'ai
31 ans. J'en ai 51, je suis arrivée à 20 ans à Paris.
Ah, alors, là, moi, il n'y a pas longtemps parce que je suis veuf, mais je viens tout le temps ici.
Il y a 4 ans.
Ah oui, tout le temps. Ah, tout le temps. C'est un moment de détente pour moi.
Et vous venez de quel quartier?
Oh, j'ai vendu à Villeneuve-la-Garenne.
Et moi, Saint-Denis. De Lyon. Lyon, Saint-Denis.
Et qu'est-ce que vous faites si c'est pas indiscret comme travail?
Moi, je fais rien, je suis rentière. Madame,
moi
également.
Aussi. Représentant de commerce.
Vous êtes rentière, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, nous sommes veuves. Nous sommes veuves, malheureusement.
Moi, je ne venais jamais à Proba l'avant, mais depuis que j'ai connu ici, je trouve que c'est vraiment un moment de détente pour moi.
On vient oublier nos soucis, nos ennuis, voilà.
Et pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé à votre fils?
Ben, c'est drogué. Un gars qui se pique 3 fois par jour, qui est parti aujourd'hui, là, bon ben, il soigne.
Dédé, t'as pas
raconté mais je m'en fous. Mais, je cherche à le soigner et puis tout. Hein. De toute façon, il soigne, je paye tout.
Radio, ça. C'est pas parce que son fils fait ça qu'elle vient se détendre, c'est pas vrai. Elle vient se détendre parce que ça lui plaît. Mais c'est pas à cause de ton fils, déconne pas non plus. Dis pas de bêtises.
De toute façon, c'est mon souci à moi, quoi.
Tu serais venu quand même.
C'est moi la mère. Hein.
Ouais, mais tu serais venu quand même, faut pas dire que c'est à cause de ton
fils. Oui, je serais venu quand même, ouais.
Je
le fais pas pour ça, non, je le fais pas pour ça. Ah non. Mais je le fais pas pour ça, moi. Je veux dire que je viens ici pour essayer d'oublier un petit peu, quand même. Parce que j'ai tellement d'ennuis la semaine. Enfin, je peux pas le dire pour moi, je le garde pour moi. Que le samedi et le dimanche, je viens me détendre, c'est vrai. Je viens pas pour ça.
Et vous vous retrouvez tous les samedis?
Pardon?
Tous les samedis.
Et là, nous avons des amis qui sont en vacances. Ben, en principe, nous sommes une dizaine d'amis. Jeune fille, je me comprends, hein. Mais en fait, dans nos âges, nous sommes très bien. Nous allons boire un coup à côté, nous venons là. Dédé, tais-toi.
Ouais, ils sont des menteuses, voyons. On va les écouter.
Non, mais en fait, c'est vrai.
Bon, moi, je vais vous dire n'importe qui ici, ils viennent pour ça, pour la détente. Pour vous étendre un petit peu, parce que vous n'avez plus 20 ans non plus. On aurait 20 ans, on irait dans des balles de jeunes. On est là, c'est des gens de notre âge. On danse, on se détend, on blague, on discute et on oublie les soucis.
Et la nuit se termine à quelle heure alors?
5h du matin.
5h.
On s'amuse bien.
5h du matin.
Ah oui, on s'amuse bien, c'est vrai. Et vous... une ambiance formidable ici.
Vous vous revoyez pas.
Il faut se connaître, hein.
Et alors ceux que vous connaissez pas, comment ça se passe quand ils arrivent?
Ah, c'est très bien.
On fait connaissance.
On fait connaissance. Même quand d'ailleurs, on connaît pas, on arrive à faire connaissance.
Il y avait des messieurs qui ne nous connaissaient pas, ils nous ont invités à boire un whisky, on ne les connaissait pas, parce qu'ils nous ont trouvés sympathiques. Eh bien, on a bu un whisky, on a bu un pot, et puis voilà, ils sont partis, au revoir, à la prochaine. Sans plus, ils sont venus se détendre. Ça leur a plu, l'ambiance leur a plu.
Et vous pensez que c'est un des rares lieux de Paris où c'est comme ça?
Peut-être pas, mais enfin, on connaît ce lieu-là, nous, on est là. Ouais. Il y en a sûrement d'autres, il n'y a pas que celui-là. Mais enfin, celui-là nous plaît.
Mais ici, c'est beaucoup aussi, hein. C'est surtout le bal des familles.
Ici. C'est plus ouvrier ici, vous voyez. Parce que les murs, on se connaît tous.
Vous allez à côté, par exemple, au Balajo, bon, c'est plus prétentieux, vous voyez. C'est des femmes bien arrangées, vous voyez. Moi, je ne suis pas coiffée aujourd'hui. J'en ai rien à foutre, je suis venue comme je suis, mais je plais quand même. On m'invite à danser, on m'invite à boire le pot, c'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des mouvements pareils. Mais alors là, il y a le contact entre les deux personnes. Hein? Il y a un contact, la tenue et les expressions, par exemple en drague. Il drague. Le danseur tire. Et elle regarde vers lui comme ça. Avec ses yeux pour venir vers lui. Voilà, en drague, expression de tango. Et la tête qui sert souvent. En slow. Et cela, beaucoup de mouvements comme ça, qui sont des tangos comme on fait maintenant, des tangos modernes. Quoi. Parce que ça a évolué, tout ça, ça a évolué, tout a changé, tout changé.
Et puis il y a ce fameux mouvement où
Je te vois venir, toi. Non. Le Hoversway, c'est un Hoversway qui se compose d'un pan arrière, un corté. Un hover, ça veut dire une grande élévation. Broken, c'est un cassé, ou cassé à la taille. Ok, hop, Hoversway. Et on regarde la petite oreille droite de sa danseuse. Et c'est ce qu'on appelle un Hoversway. Enfin, il y a plusieurs petites choses qui se greffent pour former un véritable Hoversway, un joli, quoi. Que ça soit joli, sans un Hoversway simple, c'est un, deux renversés. Un renversé, ça s'appelle en français. Il faut être dans son personnage, dans le personnage de la danse. C'est ça, la danse.
Et je vais vous dire mieux que ça. J'ai subi une intervention chirurgicale. J'étais opérée d'une prothèse. Et bien, je danse. Alors, incroyable, mais vrai. Et c'est vrai. Si vous voyez, je suis ouverte de là jusque là, demandez-lui. Il y a 6 mois, et je danse comme si rien n'était. Alors, je dis que le progrès est formidable. Et les gens qui ont peur de se faire opérer, ils ont tort. Ils ont tort.
Ah, vous chantez ?
Non, parlez de la bouge, vous parlez d'ici.
Vous parlez d'ici ?
Mais chantez.
Très sympa.
Ah, voilà.
Ouais.
Il chante en arabe.
Hey, là, c'est très sympa, mais on est envahi.
Envahi quoi ?
Par le portugais.
Par les arabes ?
Non.
Par les djavides ?
Alors là,
non.
Je te jure.
Non, on est plus en France, non, en Kabylie.
Envahi, tu sais.
Non, ça c'est des bêtises. On est envahi de quoi ?
C'est ma copine, ça.
Mais non, faut pas dire des bêtises.
C'est moi.
Oui.
C'est moi que je vous dis.
Et vous venez que le samedi ou vous venez de temps en temps le lundi ou là ?
Toutes les semaines.
Et quand vous venez pas, ça vous manque beaucoup ?
Oui.
Ça vous fait quoi ?
Ça me manque de ne pas revoir mes amis. Non pas de danser, hein, parce que j'aime écouter la musique, j'aime revoir les amis. Mais non pas de danser, j'aime revoir tout le monde.
Ouais.
Ah oui, même elle, même ma copine, c'est pas pour danser, c'est pour revoir les amis. Hein.
Aussi whisky.
Ah,
et à 5h du matin.
50 centimes, ramasse-les, donne-les à René. À René. René, c'est pour toi. Donne-les à René.
5 centimes.
Donne-les à René.
Non,
vous avez acheté le journal de l'armée du salut, pourquoi ?
Bah, pour aider comme tout le monde.
Regardez ce qu'il y a dedans ?
Ça se peut, pourquoi pas ?
Non ?
Bah, l'écriture, elle mérite d'être lue.
Vous parlez de la Bible ou l'écriture, n'importe quelle écriture ?
Ah non, j'y crois à beaucoup de choses, à la Bible aussi. J'étais baptisé, alors donc il n'y a pas de problème.
Ça veut dire perplexe, me semble-t-il.
Ah, qu'est-ce que vous regardez ? Vous savez pas ce que c'est que l'armée du salut ?
Je connais peu l'armée du salut.
Vous ne savez pas ce que c'est ?
Alors, vous allez m'expliquer ça ?
Vous expliquez ce que c'est l'armée du salut ? Ouais. L'armée du salut, c'est une organisation internationale structurée comme une armée, comme son nom l'indique. On a des grades. Ça commence au général et ça termine au cadet, avec tous les intermédiaires, qui a 2 vocations, dont une essentielle, c'est annoncer l'évangile et la parole de Dieu. Et comme dans la Bible, Jésus, quand il annonçait la parole de Dieu, faisait aussi des miracles, hein, Je prétends pas faire des miracles.
Ouais, ouais, ouais.
Mais on n'a pas le droit d'annoncer la parole de Dieu aux gens sans les aider au moins dans la vie courante. Leur dire « t'es dans le pétrin, fais ta prière et il t'aidera », non. On fait les deux. On annonce en premier l'évangile et en second, on aide les gens. Et des fois, c'est en sens inverse. On commence par les aider et ensuite, ils arrivent à l'évangile et à la compréhension et à l'acceptation de Dieu et du salut proposé.
Très bien.
Voilà, toutes les explications. Ceci étant, je vous le repropose. Il ne vaut que 2 francs. 1 franc chacun, si vous voulez.
Moi, je...
Ah là là, oui, en effet. Les oreilles d'éléphant.
C'est ça.
Alors, on vous l'offre.
Vous nous l'offrez.
Attendez, non, je vais vous en offrir un autre qui sera certainement beaucoup plus intéressant
ouais.
pour vous. Parce que là, il vous explique absolument, vous voyez, sa foi, son but et son action.
Ouais, c'est vrai, tout à l'heure, il y a un jeune homme qui a... Je ne sais même pas s'il avait un temps, il m'a dit, si tu veux... Ah, oh, s'il vous plaît, merci. Il m'a dit, si tu veux, ce soir, je vais avec toi. Puis tu rigoles, regarde mon âge. Oui, il me dit, mais en principe, c'est avec les dames âgées qu'on fait quelque chose de bien. Ben, je dis, oui, mais t'es mon copain, je peux rien faire avec toi. Eh ben, il n'est pas rien avec une autre. Il essaye de rallier une autre.
Et il y a beaucoup de rencontres qui se font comme
ah,
ça,
oui,
d'hommes
ah,
seuls,
oui, oui, oui.
qui viennent.
On va aller revoir, hein. Ah oui, mais ta jupe, ta jupe. Hé, hey, ferme ta jupe. Dédé.
Mais alors c'est-à-dire que c'est les gens, il y a des types qui viennent et des femmes seules qui viennent
et... Oui, en beaucoup les trois quarts, hein. En principe, celles qui sont mariées ne viennent pas là, elles ne viennent pas avec leur mari. C'est des célibataires, hein. C'est des dames qui sont seules, veuves, divorcées. Alors des dames qui sont vraiment seules, vous voyez, des gardiennes d'immeubles, hein, des gardiennes d'immeubles. Et les jeunes hommes, bon, ben, il y a peut-être des hommes mariés, je ne sais pas, hein, je ne pourrais pas dire. Il y a des hommes mariés, c'est pareil. C'est des hommes qui sont divorcés, veufs, et puis célibataires. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, genre, voilà, là, par exemple. Il y a un petit jeune aussi, il est divorcé. Alors, vous voyez, il revient s'amuser un petit peu. Il va voir s'il peut draguer, comme on dit. Hein. Bon, oui, il a une chance, il n'en a pas, il ira bien.
Mais alors, c'est les jeunes, ils savent danser le tango, la polka.
Ah, tout. Ah oui, oui. Les jeunes qui viennent ici, ils dansent tout. Pareil que les autres. Ah, oui. Oui, regardez d'abord, ils dansent tous très bien.
Et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les gigolos? Ça existe aussi?
Non, non.
Non.
Pas ici. Ici, il n'y a pas de gigolo. Hein. Non, non. C'est des gens, des ouvriers, c'est tout. C'est la clientèle ouvrière. Hein. Vous savez, si admettons, on n'avait pas d'argent, on dirait à la patronne, ben, je ne peux pas vous payer, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Bon, ben, elle s'arrangerait pour qu'on paye une autre fois, vous voyez, où les garçons nous prêteraient de l'argent. Non, c'est vrai, hein. On dit à un garçon, comme ce soir, j'ai dit au garçon qui est à la porte, là-bas, monsieur Grémy, je lui ai dit, René, c'est une copine qui est venue, elle dit, tiens, tu payes la place à Mimi. Il l'a payé, vous voyez, ben, je lui rendrai ou je ne lui rendrai pas. Hein, ça, c'est pas le problème, mais il l'a fait, vous voyez. Parce qu'ailleurs, on ne verra pas ça. Il n'y a pas cette amitié de clientèle avec le personnel, vous voyez.
Est-ce qu'il y a des grands danseurs, des
ah
gens
oui,
qui dansent prêtres?
Il y a des très bons danseurs ici. Très bonnes danseuses et des très bons danseurs. Il y a des toupilleurs, des toupilleuses, c'est formidable.
Qu'est-ce que c'est, les toupilleuses et les
C'est-à-dire, vous dansez sur place, vous voyez, vous ne faites que des petits pas. C'est pas les grands pas. Par exemple, la toupie, c'est pas la valse à l'envers ni à l'endroit. C'est à l'envers, mais la toupie, vous voyez. Vous tournez sur vous-même. Vous pourriez danser sur une table, par exemple. Vous voyez, c'est ça, la toupie. Et il y en a beaucoup ici. Ah oui. Comme au Balajo, hein.
Ouais.
Mais enfin, je parle d'ici, personnellement. Il y a des très bons danseurs.
Il y a des concours de danse, parfois?
Non. C'est arrivé une fois ou deux, mais enfin, il n'y en a pas eu. Non, parce que dans un concours de danse, vous savez bien ce que c'est. Oh. Vous savez, dans des concours de danse, bon, ben, y a un peu de favoritisme. Même si la personne danse pas bien, on va lui donner le premier prix. Voyez.
Et vous savez faire la danse
Ah oui. Moi, je toupie et je danse tout. Je suis toupilleuse. Ah oui, je peux aller dans n'importe quelle balle. Même handicapée que je suis, hein. Ah oui. Et là, j'ai une prothèse, mais je danse la toupie. Ah oui. D'abord, les copines, il y a des copains qui viennent me chercher pour danser parce qu'ils savent que je danse bien. En ayant une prothèse, vous voyez. Ah oui, ça c'est formidable. Puis que ce soit, il n'y a pas d'âge, hein. Tu
viens danser avec nous, puis c'est tout. Hein. Si je dis, ben non, on va chercher le petit jeune, non, tu viens, c'est toi que je veux, puis c'est pas une autre. Hein. Vous voyez, voilà, c'est formidable.
Et vous avez des souvenirs de grands danseurs?
Il y a toujours eu des bons danseurs, mais ils sont encore là. Il y en a qui reviennent. Bon, ils ont fait leur vie, ils ont arrêté pendant quelques années. Bon, ben, ils se retrouvent tout seuls, vous savez, le ménage, où ça va bien, où ça va plus bien, mais ils reviennent. Eh bien, on redanse.
Et vous on se rappelle. Quand c'est un bon danseur, vous le sentez
ah
ben à quoi?
Oui, on les connaît. On se connaît. On le voit d'abord. On le voit. On le voit danser. Eh bien, c'est... Là, on voit que c'est un bon danseur, vous voyez. On le voit nous-mêmes. Hein. Une bonne danseuse voit un bon danseur. Un bon danseur voit une bonne danseuse. Bon, ben, il faut bien que tout le monde apprenne, hein, de toute façon. Hein, que ce soit un bon danseur ou pas un bon danseur, il faut que tout le monde. En fait, c'est bien. Formidable.
Bien, merci.
Je voudrais vivre toujours cette vie-là. J'ai 51 ans, mais je voudrais vivre encore 50 ans cette vie-là. J'espère d'aller le plus loin possible. Si la mort ne me surprend pas, je viendrai vieille et j'irai vieille au bal. Voilà.
Merci. Au revoir.
Dans tout. Ah, pour moi, ne me parle pas. Moi, je ne vais pas arrêter. Je dansais déjà dans le ventre de ma mère. Alors, c'est déjà différent. Mais je donnais des coups de pied. Pam, 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 partout. Elle a eu autant d'enfants, mais personne n'a battu comme moi. Moi, je dansais déjà du Charleston. Je danse chez elle. Alors, tu vois? Je danse autant. Même avec ma patte empaillée comme ça, je t'assure que l'autre jour, je faisais du disco. Hein. Je suis née comme ça, hein. Et pourtant nous sommes une nombreuse famille, mes sœurs, mes frères. Moi, je tiens de mon papa. Ça, mon papa, il aimait danser. Oh, quand il pouvait s'échapper de la maison, il s'en allait au Pérou, je te parle. Hein. Il s'en allait au club, là-bas, c'était des clubs. Alors, il allait danser. Ma mère n'a jamais aimé danser, jamais. Elle a 89 ans maintenant, mais elle n'a jamais dansé. Ni avec Georges, elle voulait danser avec personne. Mes frères et mes sœurs, pareil. Si, c'est moi qui l'aurais appris à danser à l'école quand ils venaient apprendre tout ça. Mais d'eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils n'ont pas la danse d'un poil que moi. Regarde si c'est drôle. Hein? La danse personnifiée, paraît-il. Mon père disait au toit. Moi, je te vois. Il y a un petit oiseau chez nous, en Amérique du Sud, qui est tout vert comme ça, avec son petit col jaune et ses petites papattes. Ainsi comme ça. Alors mon papa, il disait, oh, toi, tu es comme un piwichito. Ça s'appelle un piwichito. Le piwichito, il marche avec ses petites papattes. Toi, tu es exactement comme ce petit oiseau. Que me disait mon père. Quand tu danses, il m'appelait ça, mon papa. Ah oui. C'est la danse, les enfants.
C'est la danse, celle où chacun fait quelques pas dans l'espoir de l'autre. C'est la danse sans cesse interrompue et reprise, où l'on ne distingue plus que les désirs d'élégance et de mouvement, comme s'ils préservaient la vie qui s'échappe et se défait. ainsi la danse, quelques gestes et encore la danse. Nuit magnétique, quatre quartiers de solitude, comme une danse, Christian Prévost, Philippe Bouillette, Josette Collin, Bruno Sourcy, Olivier Képlin.
C'était Quatre quartiers de solitude, deuxième partie. Une émission d'Olivier Képlin réalisée par Bruno Sourcy. Diffusé pour la première fois le 10 juin 1987 sur France Culture.